Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Bonjour mon cher Rust.
Salut Guillaume, content de te revoir, content de vous revoir.
Vous revoir tous, long time no see. On est déjà 146 en live sur Twitch.
Wow.
That's crazy, but not as crazy as it used to be.
As it used to be.
Alors, ouais, Rusty le retour, Rusty B, respecte-moi. Oh lol, oh lol.
Quoi? Hey, oh.
Calmez-vous, les gars, il est de retour, mais dans le respect de chacun, quand même, et de votre intégrité physique. Alors les gars, le King Energy avec Fernand était super, ouais non, on est très content en tout cas de cet épisode-là. Il y a eu des gros problèmes par contre avec YouTube au niveau de l'encodage, je crois que l'encodage HD a pris un peu de temps, en même temps la vidéo durait 1h20, mais bon, ça n'excuse pas YouTube et leur encodage. En tout cas, oh là 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 là, Big Rusty is here, c'est, oh là là, le retour de l'élu, oh putain.
Oh putain, ah ouais, ah quand même.
Ok.
En mode Matrix.
Oh ça fait plaisir les gars, Rust on t'aime. Salut les gars, content du retour de Rusty B. Rust le BG is back. Rust, Rusty, le retour du roi. On a même un Rust Skywalker. Oh là 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 là.
Toujours plus.
Toujours plus. Bref, donc aujourd'hui les gars, c'est un actu en sueur. On va parler de ce qui se passe en ce moment, bien évidemment, au sein de l'UFC et du MMA en général. On va y aller crescendo. Comme à notre habitude, vous le savez, bien évidemment. Voilà. Là, on va lancer le petit générique actu en sueur. Si vous nous regardez sur YouTube, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément. Si vous êtes sur Twitch, bah, merci de votre fidélité. Et bah, c'est parti, hein? Let's go! Soit! Alors, on va commencer par Jacare Souza qui prend sa retraite du MMA. On a Fumanchu qui nous dit dans le chat, Jacare arrête sa carrière dans le MMA pour affronter Rust en Muay Thai. Peut-être. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il s'arrête en MMA après une fin de run, mine de rien, assez, je vais pas dire assez triste, mais c'est vrai qu'au regard du statut de légende qu'avait Jacare, Rust va vous en parler, un peu dommage de partir par la petite porte comme ça pour quelqu'un qui n'aura jamais eu le title shot hein, à l'UFC.
Et en fait, c'est terrible parce que il n'aura jamais eu le title shot alors qu'il aura eu un run qui vaut un title shot. Et c'est terrible parce que quand il a eu son run à l'UFC, il me semble qu'il avait déjà aux alentours de 35 ans, en fait, ce qui était déjà assez vieux parce que toute sa première partie de carrière, il l'a fait donc dans le monde du jiu-jitsu brésilien. C'est là qu'il a eu toutes ses accolades. Et c'est vrai que quand il est arrivé dans le monde du MMA, il a d'abord commencé à vraiment se faire un nom au Strikeforce. Il était devenu champion. Et après, quand il est venu à l'UFC, vraiment, il avait cette étiquette de « c'est un gars qui peut faire très très mal » parce que c'est un gars qui est un prodige du jiu-jitsu brésilien et du sol et qui commence à vraiment s'amuser debout, quoi. D'ailleurs, à l'UFC, il a mis toute une pelletée de KO hein, et des trucs assez hardcore, quoi, genre des high kicks à Derek Bronson, des trucs comme ça, enfin des patates de fourrin, je crois que c'était Yushino Kami, un truc monstrueux et tout. Et donc, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui était très complet, qui était dangereux dans donc debout et au sol. Et pendant son run, qui a été stoppé, il me semble, par une split décision contre Romero, puis ensuite, trois combats plus tard, par le KO contre Robert Whittaker. En fait, avant, il était sur une série, je crois, de 4 victoires à l'UFC, très convaincante. Et le problème, c'est qu'il a joué de malchance aussi, en fait, si je me souviens bien. Parce que si vous regardez, alors je crois que c'était le combat juste avant de Yoel Romero, il a affronté Chris Camozzi, et en fait, c'était parce que à l'époque, en fait, il devait affronter je sais plus quel top combattant et en fait, la personne s'était blessée et du coup, il avait affronté parce qu'il était vraiment aussi en mode anyone, anywhere. Enfin, Jacare Souza, il était en mode je prends tout le monde. Et c'est ce qui a fait de lui aussi une légende. Et du coup, ben le truc, c'est qu'il est allé un petit peu de malchance en malchance avec des combats qui se sont pas faits. Et puis, quand il a affronté Yoel Romero, il a perdu une split décision très, 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 très serrée. Et en fait, après, donc, il a regagné les combats, mais il est tombé contre Whittaker. Et pareil, je me souviens plus, mais je sais qu'on en avait parlé à l'époque, en plus, tous les deux.
Tard l'époque.
Tard l'époque, you know. Et en fait, à l'époque, vraiment, on se disait, il a vraiment rien à gagner à affronter Whittaker. Whittaker montait de welterweight, c'était pas encore la personne que c'est aujourd'hui, et Jacare n'avait aucun intérêt à l'affronter. Je sais plus quelles étaient les circonstances qui ont fait que ça s'était fait, le combat, mais encore une fois, il avait plus à perdre qu'à gagner, Jacare. Donc honnêtement, c'est un peu terrible, parce que sa carrière à l'UFC, même si c'est devenu vraiment quelqu'un de respectable et de respecté, elle aura jamais eu la résonance qu'elle aurait pu avoir. Et c'est pas que dû à lui, c'est ça qui est terrible. Donc, légende du grappling et du sol, quelqu'un de très établi et très respecté dans le monde du MMA, mais effectivement, il n'aura même pas eu de title shot, quoi.
Terrible pour Jacare Souza qui finit, oui, c'est quelqu'un qui nous le disait dans le chat assez justement, hein, triste la fin de carrière par KO, puis surtout la soumission à la fin, oui, victime d'une fracture du bras, je crois, ou même double fracture, enfin bref, assez triste pour notre cher Jacare qui, en plus, il y avait quelques petites discussions potentielles avec d'autres organisations, mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, au regard de ce qu'il a montré, hein, mine de rien... plus de 40 ans, mine de rien, Jacare, il y a plus grand chose à faire, tu vois, un Renault Bellator ou PFL, moi, ça m'aurait pas intéressé, et encore moins s'il avait été comme Diego Sanchez, là. Il y a des discussions pour que Diego Sanchez aille au BKFC, donc en bare knuckle, et là, il doit juste passer, je crois, les tests médicaux, la visite médicale, et en cas de succès lors de cette visite médicale, il signera au bare knuckle Fighting Championship Diego Sanchez. On en avait parlé avec Rust, on ne veut pas voir ça, et donc, c'est clairement pas la meilleure chose pour sa carrière, et pour sa vie même en général.
C'est presque une farce, enfin, honnêtement, de dire il ne reste plus à Diego Sanchez de passer la visite médicale, en gros, pour faire du combat à point nu contre des mecs qui viennent vraisemblablement de la boxe, c'est une farce. Diego Sanchez il a pris suffisamment cher pendant sa carrière, on sait à quel point il a encaissé, ça faisait son style n'était pas un style à la Cyril Gane ou à la Adesanya. C'était un cogneur, c'était un brawler, et on connaît la fin de carrière de Diego Sanchez. Le fait que là il signe au BKFC, on en avait déjà parlé dans un podcast, c'est littéralement ce qu'il pouvait faire de pire, quoi.
Ouais, exactement. En dehors d'un combat contre Francis Ngannou. Alors,
c'est le pire pour tout le monde.
on avance. Enfin, le pire pour tout le monde. Pas pour Cyril Gane. Alors, avançons là-dessus. Deuxième news, et pas des moindres, mon cher Rust, je suis en train de regarder. Est-ce qu'on retrouve cette magnifique transition? Oui, la transition, elle est là. Elle est là, faut juste bien cadrer notre cher Bagel Rusty, et voilà, il est magnifique. On va s'intéresser, donc oui, à José Aldo qui veut TJ Dillashaw pour son prochain combat. Il a même pas dit je veux, il s'attend à ce que l'UFC lui propose ce choc face à TJ Dillashaw. Alors toi, qu'en penses-tu? Mine de rien, bon, c'est the bigger the reward pour notre cher José Aldo, mais en tout cas moi j'aimerais voir ce combat-là.
Bah moi aussi, alors si je comprends bien un peu les mécaniques, le seul truc qui s'y oppose, c'est que théoriquement, du coup, TJ Dillashaw... attends, je suis en train de me perdre dans ma tête, mais qui est le champion déjà?
Le champion est Aljamain Sterling.
Donc je crois que ce que voulait TJ Dillashaw, c'est maintenant qu'il a battu Corey Sandhagen, c'était directement le titre.
C'est ça.
Donc je ne sais pas, c'est peut-être le seul grain de sable dans le rouage, c'est que je ne sais pas s'il a grand intérêt à affronter José Aldo, à part évidemment le fait d'affronter une légende vivante. Mais s'il a le choix entre la légende vivante et le titre, je me demande si quand même TJ ne choisira pas le titre. Mais par contre, pour José Aldo, ce serait génial, et pour les fans, ce serait génial, parce que José Aldo, t'as l'impression qu'il ne vieillit pas, c'est-à-dire que en 3 rounds, il est limite imbattable. Enfin, c'est très 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 compliqué quand même. En 3 rounds, quand il sait qu'il peut vraiment y aller, qu'il n'y a pas, parce que par exemple, on rappelle que contre Petrian, les premiers rounds, on a un vintage José Aldo en or qui brille Pokémon. C'est trop beau, c'est vraiment trop beau. Et c'est vrai que c'est le fait aussi qu'il s'est fait reprendre sur les derniers rounds, parce que Petrian est fait grosso modo en plomb. Mais un José Aldo en 3 rounds, c'est toujours une gourmandise. Donc si jamais il y avait un combat et que pour une raison X ou Y, c'est un combat qui était en co-main event ou en co-co-main, et qu'on a un José Aldo TJ Dillashaw en 3 rounds, je pense que ça peut faire un des combats les plus magnifiques de cette année. Les plus magnifiques. Quand on voit ce qu'a été capable de produire en termes techniques le José Aldo qu'on a vu là contre Pedro Munhoz, et Inch'Allah, TJ Dillashaw arrive avec peut-être un petit peu moins de blessures et de casses sur son prochain combat, parce que visiblement, ça avait quand même l'air d'être assez sérieux. Tous les combattants sont blessés hein, quand ils arrivent à un combat, mais bon, peut-être que effectivement, peut-être que cette fois-ci, c'était un peu plus pour TJ, je sais pas. Et sachant que en plus, son genou, il se l'est à moitié cassé en combat, donc ça n'est même pas valable pour ça. Tout ça pour dire que effectivement, José Aldo contre TJ Dillashaw, s'ils sont en suffisamment bonne forme, c'est pour les fans, c'est Noël avant Noël, hein, c'est clair.
Je rejoins parfaitement Ross là-dessus. La seule interrogation, c'est voilà, est-ce qu'aujourd'hui TJ Dillashaw veut un combat qui s'annonce extrêmement compliqué alors qu'il est dans les starting blocks pour avoir le prochain title shot. Ça, je ne pense pas malheureusement pour José Aldo, mais c'est clair qu'au regard de tous les mecs qui sont présents dans cette catégorie-là pour José Aldo, ce serait le plus intéressant parce qu'au-delà d'un combat pour le titre, là, il s'offre une légende qui a montré qu'elle était toujours dans son prime ou en tout cas à très haut niveau. Et comme l'a dit Ross, enfin là, ça fait partie de ces rares combats où vous n'avez pas besoin de mettre un titre en jeu pour que les gens allument leur télé et se disent « Ok, on va être témoin d'un truc au cours de l'histoire. » Enfin, parce que là, on a l'ancien champion featherweight contre l'ancien champion bantamweight qui s'affronte.
C'est énorme.
Ce serait pas mal du tout. On avance, mon cher Rust, sans transition, bien évidemment. Avec Nathan Diaz qui veut Dustin Poirier. DP. He wants DP. Alors,
Évidemment, ça parlait de Manuel Ferrara avant le podcast, on y est.
Non, mais plus sérieusement, les deux hommes devaient s'affronter en 2018, si je ne m'abuse. Donc, ils devaient s'affronter en 2018, c'était au Madison Square Garden de New York City, donc chez les lightweight. Et ce qui s'était passé, c'est que je crois que c'était Dustin Poirier qui s'était blessé. Oui. Enfin, ou Dustin Poirier s'était blessé. En tout cas, Ned Diaz était parti en cours de conférence de presse parce que l'UFC avait hypé justement le combat entre Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov. Il était en mode il manque de respect, machin. Il s'était barré en pleine conférence de presse. Les gens le voulaient, ce combat-là. Dustin Poirier le veut toujours, ce combat-là. Visiblement, Nate Diaz est toujours intéressé. Là, le seul problème, à mon sens, hein, même si j'adorais le voir, hein, c'est comment t'arrives à justifier le truc pour que tout s'emboîte bien et se dire on va faire Nate Diaz Dustin Poirier. Parce que là, ça n'aurait aucun sens.
Ça n'a aucun sens. En fait, ça n'a aucun sens. Et le seul sens que ça a, c'est à partir d'un truc qui est impalpable, qui est les gens surkiffent Nate Diaz. Et son stock n'est pas descendu depuis son combat contre Leon Edwards, aussi fou que ce soit, parce que quand on y pense, c'est de la folie. Mais après s'être fait démonter pendant 4 rounds et demi, son stock n'est pas descendu. C'est génial, c'est incroyable. Il n'y a que Nate Diaz pour faire ça. Mais donc, effectivement, je pense que les gens serait pour une partie chaud pour un combat contre Nate Diaz. Il y aurait aussi énormément de gens, attention, qui diraient, à raison, 1000% raison, que ça n'a aucun sens. Et ils auraient tellement raison que on serait les premiers, même si, au niveau du combat et stylistiquement, j'aurais envie de voir ça, quand même, je serais, bon, la partie raisonnable, ma partie raisonnable, tu sais, le petit ange sur l'épaule, le dirait, oui, mais non, d'accord. Ce serait cool, tu vois, ce serait cool, mais non. Mais le truc, c'est que il faudrait théoriquement là que Nate Diaz ait un combat en lightweight et qu'il le gagne. C'est un peu toujours pareil. Juste, ne serait-ce que pour justifier un tout petit peu plus que tu reviens pas d'une défaite et tu vas affronter le mec qui est censé combattre pour le titre lightweight. Tu vois, juste au moins qu'il y ait un tout petit peu de, au moins un minimum de logique. Et pour Dustin Poirier, de toute façon, il l'a dit, Dustin Poirier, il y a une raison pour laquelle il a choisi le deuxième combat contre McGregor à la place d'un combat pour le titre, c'est qu'il est là pour faire des gros combats. Il est là maintenant pour cimenter un peu déjà financièrement, se cimenter tout seul et sa famille, et pour vraiment faire ce qu'il est possible de faire qui a le plus de résonance médiatique, quoi. Et donc, c'est clair que Dustin Poirier, il est absolument pas opposé, il l'avait déjà dit, à un combat contre Nate Diaz, de toute façon, quoi qu'il arrive. C'est juste que là, je pense quand même, parce qu'il y est pas opposé, mais il a quand même dit aussi, en parallèle, j'ai envie d'avoir cette ceinture. Donc, je pense que là, en premier, il va d'abord, à mon avis, aller chercher la ceinture ou essayer de la prendre à Charles Oliveira. Mm-hmm. Peut-être, si ça se trouve, dans un deuxième temps, effectivement, faire, moi, je veux Nate Diaz. Un petit peu comme Georges Saint-Pierre avait dit, je veux Nick Diaz, alors que Nick Diaz sortait d'une défaite contre Carlos Condit.
Contre Carlos Condit, oui.
Donc c'est imaginable, ça n'aurait aucun, encore moins de sens que ça n'en avait avec Nick Diaz, parce qu'avec Nick Diaz c'était une décision très très controversée contre Carlos Condit, les gens étaient en mode mais Carlos Condit a fui le combat, et donc entre guillemets ça pouvait se défendre un petit peu plus. Là c'est quand même chaud, là de vendre Nate Diaz dans un combat pour le titre maintenant, là c'est quand même, c'est, là faut se lever de bonne heure et faire de l'arithmétique quoi. Mais on a déjà vu des trucs, on a déjà vu des ovnis à l'UFC. Hein. Donc,
On a Golgot Molotov qui nous dit je ne suis pas pour.
Quoi ? Qui ?
Golgot Molotov, je ne suis pas pour. Ah. DP va lui faire trop mal. Et c'est bon, là, avec Nate Diaz ne justifie pas de rencontrer DP. Moi, le seul moyen, en fait, de faire ça, de faire ce combat-là, à mon sens, hein, bien évidemment, même si je préférais le faire en lightweight, c'est Dustin Poirier affronte Charles Oliveira, il est champion de la catégorie. Ensuite, tu lui offres le droit de se faire un espèce de petit combat où sportivement il n'y a pas vraiment de sens, mais en welterweight. Parce que ça fait un moment que Dustin Poirier parle de montée de catégorie. Tu le fais face à Nate Diaz, qui certes évolue en welter aujourd'hui, mais qui n'est pas un gros welterweight, lightweight naturel Nate Diaz, pour un petit peu se tester, pour que les gens se disent « Bon ok, il a vraiment sa place dans la catégorie ou pas ?» En cas de victoire face à Nate Diaz, bah ensuite il défend sa ceinture face au vainqueur de Michael Chandler contre Justin Gaethje. Ensuite, tu lui fais peut-être un autre combat en welter. Enfin, tu vois, il fait un petit peu yo-yo dans ces deux-là, puisque Conor McGregor, pour l'instant, hein, bah, je mets quand même de gros points d'interrogation sur son retour, tu vois. Donc, on va dire, dans un monde sans Conor McGregor, tu fais ça. Mais sinon, c'est vrai que là, ça paraît assez compliqué. Et puis même là, comme tu le dis, il faut que Nate Diaz gagne, si on veut le voir en lightweight, mais contre qui tu le mets ? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'adversaires où, là, actuellement, il peut perdre et où en cas de défaite, ça ne va pas justement faire en sorte que les gens se disent « Ok, le mec est vraiment rincé. »
Bah ouais. Non, c'est compliqué. Mais c'est vrai que ça a du sens parce que, j'allais dire, Anderson Silva là, le faisait déjà à l'époque, mais après Anderson Silva, c'est un peu une dynamique différente parce qu'il était à je ne sais pas combien de défenses de titre en fait. Donc, quand l'UFC donnait le droit à Anderson Silva d'aller démonter Stéphane Bonnard dans la catégorie supérieure, c'est évidemment c'est juste l'UFC qui donne ouais vas-y va t'amuser tu vois, enfin c'est vraiment c'est la récré quoi, mais c'est vrai que c'est un petit peu moins défendable quand tu viens juste de gagner le titre d'aller faire un combat d'exhibition entre guillemets en welterweight. Ça aurait attention je suis d'accord avec toi, c'est ce qui aurait le plus de sens parmi les scénarios auxquels on peut penser, mais ça reste quand même quelque chose qui n'a pas trop de sens. Parce que c'est vrai que c'est Gilbert Burns qui disait ça à propos, je crois, du coup de Nate Diaz, là, hier ou avant-hier, un tacle, mais les deux pieds décollés du sol, mais à raison, qui disait à propos de Nate Diaz, mais en fait, ah oui, c'est vrai, la dernière fois que tu as battu un vrai welterweight, c'était... Bah, c'était jamais. Et c'est vrai que c'est pas totalement faux, en fait, parce qu'il a fait, oui, pas mal d'excursions en welterweight, Nate Diaz, mais à moins que je me trompe, il a surtout pris beaucoup de défaites et pas beaucoup de points pour Gryffondor, quoi.
Ouais, je crois que là, il est à... j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois qu'avant, Leon Edwards, il était à 4-4 en carrière chez les Welter, et maintenant, il est à 4-5. Donc,
c'est mitigé.
Donc voilà, c'est mitigé. Exactement, le bilan est mitigé. Donc voilà, donc en tout cas, là, c'est pour le combat de Dustin Poirier contre potentiellement Nate Diaz. On a quelqu'un en chat qui nous dit « Ouh là là !» Hot take sur hot take, Cody Garbrandt, futur champion flyweight, TJ Dillashaw, futur champion bantamweight, Brian Ortega, futur champion featherweight, Dustin Poirier, futur champion lightweight, Colby Covington, futur champion welterweight, Paulo Costa, futur champion middleweight, Jiří Procházka, futur champion light heavyweight, John Jones, futur champion heavyweight. Entre parenthèses, Pauly Domso est d'accord avec moi.
Damn.
Non, je ne pense pas. Je pense quand même à... Quand on regarde tout ça, petite pièce sur Jiří Procházka.
Oui.
Petite pièce
sur... Oui, absolument.
Petite pièce sur Dustin Poirier, futur champion lightweight, oui. Tous les autres, ça me paraît très compliqué.
Ouais. Alors, Paulo Costa, là, je pense que c'est quand même très compliqué, là.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Effectivement, Colby Covington, c'est pareil. J'ai tellement de mal à voir Kamaru Usman être bougé d'un iota que c'est chaud. Tout ce qu'il vient de dire, c'est possible, hein, mais chaud. Et Cody Garbrandt, j'ai trop peur, en fait. J'ai limite presque même plus peur en flyweight maintenant, en fait, parce que s'il commence à prendre des KO en flyweight, ça va être difficile de le vendre, même s'il remonte. Enfin, je vis dans la peur maintenant pour Cody Garbrandt. TJ Dillashaw, pourquoi pas, hein. Sait-on jamais.
We never know.
Mais ouais, mais enfin, ça veut dire que je mise quand même sur Petriane qui reprend sa ceinture et aller décrocher Petriane pour l'instant, c'est tendu quand même.
Ouais,
c'est tendu.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc voilà. En tout cas, c'était Hot Take sur Hot Take de Wallabox 75 qui est quasiment là à tous nos lives. Rust, on avance. Wow. On avance. Eh oui, wow. Oh wow. Oh wow. It's amazing. It's simply amazing. On va avancer donc avec Cyril Gane, John Jones. Alors là, les gars, vous allez me dire, les mecs, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de
militer. Attendez.
Vous n'avez pas le droit de militer à ce point. Je rappelle quand même que tout ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est pas de notre faute. On avait fait un podcast. Je crois que c'était avec Polydomso et Cross. On a dit bon, là, on a fait 2 semaines sur Cyril jusqu'à son combat contre Volkov. On va arrêter de parler de lui. Littéralement, 8 heures après, Cyril Gane était officialisé contre Derrick Lewis pour le titre intérimaire heavyweight. Bon, alors donc là, Cyril Gane contre John Jones, parole à Rust, parole à la défense.
Bah oui, pourquoi on le fait? Évidemment pour milquer, ça c'est une évidence, mais aussi parce que je trouve que c'est un bon exercice de pensée, quoi. En fait, j'aime bien réfléchir à ce combat parce que l'opposition... Pardon, quelqu'un qui toque en haut. Excusez-moi. L'opposition en fait entre Cyril et Francis Ngannou, elle est fascinante parce que c'est vraiment deux styles tellement opposés l'un à l'autre. L'un sur de la technique évidemment, mais une puissance exceptionnelle, surnaturelle presque. Et Cyril qui est le technicien, peut-être le plus grand technicien. On verra dans quelques années, mais peut-être en devenir le plus grand technicien de la catégorie poids lourd. Donc le match-up est incroyable. Et on l'a. Maintenant, c'est vrai que John Jones contre Cyril Gane, ça m'intéresse tout autant, en fait. Parce que si l'opposition de style est intéressante entre Francis et Cyril, ben là, on aurait vraiment une opposition de pur technicien entre Cyril et John Jones, entre pur technicien invaincu sur le papier, même si c'était chaud contre Reyes. Mais c'est pas le couloir, en fait. Ils sont juste en haut. Là, tu les entends? Ben ouais, mais non, ils sont là, ils sont partout, ils sont dans les murs, donc ils sont dans les campagnes, mais
dans nos maisons.
Donc, ouais, et donc l'exercice de pensée, je trouve, est vachement intéressant, et parce que déjà Fernand lui-même a dit que c'est le match-up qui serait probablement le pire pour Cyril. Comme tout le monde, en fait, j'ai envie de dire, parce que quand tu combats John Jones, c'est un puzzle, c'est le puzzle, en fait. C'est un des goats, c'est le puzzle ultime que personne n'a réussi à franchement résoudre, parce que même si on dit que Dominic Reyes, c'est vrai, a peut-être battu John Jones, c'est vrai que c'était extrêmement serré et que ça aurait pu aller dans un sens ou dans l'autre, mais il ne l'a pas franchement battu. Et du coup, enfin, ce qu'on attend surtout, c'est de voir quelqu'un qui peut dépasser complètement John Jones. Et c'est ça qui va être vraiment cool si ça arrive, quand ça arrivera. Et du coup, ben, moi, je serais juste tellement, tellement curieux de voir comment Cyril gère John Jones et comment John Jones gère Cyril pour le battre. Je serais curieux de savoir si John Jones arrive à utiliser sa lutte. Je serais curieux de savoir comment est-ce que ça se passe en clinch. Je serais curieux de savoir comment ça se passe en combat à distance, en combat rapproché. Les deux adorent leurs coudes. Les deux adorent être extrêmement créatifs. Je serais vraiment très curieux de voir si John Jones arrive à amener Cyril au sol, comment ça se passe, s'il arrive à l'y maintenir, s'il arrive à tenter des trucs. Il y a tellement d'inconnus et là, leur palette technique est tellement large que ça fait, tu sais, c'est comme les échecs, c'est le nombre de combinaisons, c'est égal au nombre de poussières dans l'univers ou je sais pas quoi. Bah là, c'est pareil, en fait. Et du coup, ce serait vraiment tellement fascinant que j'aime bien y penser, quoi.
Il aime bien y penser, Big Rusty, parce que oui, mine de rien, ce combat-là, potentiellement, en tout cas sur le papier, il y a le combat Francis contre Cyril et le vainqueur affronte John Jones. Donc on n'est pas si loin finalement. Et c'est vrai que ça fait une très très grosse opposition, enfin pas opposition de style, mais on va dire au niveau mine de rien, je pense, de ce qu'on pourrait voir avec ce combat-là. En tout cas, gagnant, à mon sens, le gagnant de ce combat-là régnera sur la catégorie pendant un petit moment.
Ouais, et d'ailleurs d'autant plus que c'est le coach il y a quelques jours de John Jones, Brandon Six Gun Gibson. Brandon Gibson, Six Guns, ouais. J'étais sur le point de citer la réplique dans Django Unchained, mais il y a le N-word, donc on va pas le faire. Mais avec I've Got Two Guns, voilà. Mais en plus du coup, le coach de John Jones disait, en plus, ce qui est bien, c'est que en poids lourd, les gens ont beaucoup plus d'années devant eux, en fait. Et John Jones, ça m'a rassuré, c'est vrai, d'une certaine manière. Et c'est vrai, il a pas tort, tu vois. John Jones, là, il peut encore attendre 3-4 ans. Et s'il revient en heavyweight, il sera quand même ultra dangereux. Parce que la moyenne d'âge des heavyweight, enfin, on en parle assez souvent, mais elle est beaucoup plus âgée. Enfin, la moyenne d'âge est beaucoup plus élevée que dans les autres catégories, et c'est normal. Mais du coup, c'est vrai que là, que ce soit Cyril ou John Jones, théoriquement, ils sont suffisamment en forme pour, s'ils gagnent leur combat, là, les prochains, régner, pourquoi pas, pendant 2-3 ans encore. Ils sont pas, il y a plus vraiment la même limite et la même fin, tu sais, la date de péremption, d'expiration que s'ils étaient en welterweight ou en lightweight, quoi. Donc, c'est vraiment intéressant, effectivement.
Donc à suivre, en tout cas dans le chat, on nous dit oui, on pose cette question-là, dans ce type de match-up, l'ancienneté, l'expérience de John, ou au contraire le manque d'expérience de Cyril, ne pourrait-il pas avoir un gros impact sur ce type de rencontre ? En vrai, honnêtement, je ne pense pas du tout. Le seul truc...
Moi non plus.
Le seul truc, et là pour moi c'est pas l'expérience, mais c'est plutôt, John Jones, on sait que quand il est vraiment dans le dur, c'est arrivé peu de fois, mais chaque fois que c'est arrivé, il a gagné les combats et surtout il a réussi à inverser le truc. Cyril pour l'instant n'a jamais eu à traverser ça, mais ça c'est pas du tout une question d'expérience, c'est qu'il y a des mecs, quand justement ils sont poussés dans leur dernier retranchement, ils arrivent à se sublimer. Mais Cyril n'a jamais vécu ça pour l'instant, donc c'est peut-être le seul point d'interrogation.
Ouais, c'est exactement ça. Je pense. Parce qu'effectivement, en fait, c'est Cyril lui-même qui disait, quand on lui dit, mais du coup, après avoir battu Volkov, bah, finalement, il avait toute cette expérience, mais t'as réussi à le battre. Et en fait, c'est vrai que Cyril est tellement ultra, ultra complet techniquement, et il a cette manière de voir les choses qui fait qu'il est extrêmement calme et chill, et réfléchi dans toutes les situations, qui fait que, c'est comme si, entre guillemets, le manque d'expérience était pallié, en fait. Parce que, il a peut-être pas les années d'expérience, mais c'est comme s'il avait l'expérience. Parce que ce qui vient avec l'expérience, généralement, c'est la capacité de prendre des décisions rationnelles, calmement, et ne pas céder à la pression, réussir à être intelligent, à avoir un bon fight IQ, etc. C'est ça qui se développe avec l'expérience. Mais, le truc, c'est que Cyril, il a déjà tout ça. Donc, il n'a pas les années. Mais il a l'expérience, théoriquement, tu vois. Donc, je suis d'accord. Et puis, c'est vrai que, contre Volkov, qui était son combat le plus disputé, c'était un combat qui était son plus disputé jusqu'à maintenant, mais ça a pour autant pas été non plus serré. Donc, effectivement, on peut pas exactement encore savoir ce que donnerait Cyril dans un cas de figure Gastelum versus Adesanya, quoi.
On a aussi Fu Manchu qui nous dit « Ça fait tellement longtemps que l'on entend parler de Jones en heavyweight que je n'y crois plus du tout, mais si ça arrive, ce sera uniquement pour le titre, et s'il gagne, il prendra sa retraite comme GSP en middleweight. » Il y a quelqu'un qui ajoute aussi Moonset, donc ce qui est dangereux, c'est que John Jones ne veut que le champ, et on ne peut pas connaître l'état de forme de Jones vu qu'il n'est jamais monté. Alors moi, vraiment, personnellement, avec tous ces arguments-là, je n'y crois pas du tout, dans le sens où, pour moi, John Jones, tu vois, c'est comme un TJ Dillashaw, quand il y a quelqu'un qui nous a ressorti d'ailleurs des messages qu'on avait envoyés il y a 2 ans, quand on nous posait des questions sur TJ Dillashaw avec son contrôle positif, c'est est-ce qu'il reviendra le même et tout, et on avait justement répondu bah oui, il va revenir au top. Et pour moi, John Jones, c'est la même chose. C'est un mec, quand il combat, quand il revient, peu importe son état de forme, quand je dis son état de forme, s'il a des blessures, s'il a fait la fête, s'il a été pleinement concentré, vous pouvez être sûr que le mec vient pour gagner et qu'il ne va pas perdre, en tout cas qu'il faut sortir une performance absolument monstrueuse pour le battre. Là, le fait de monter en heavyweight, il le sait, et c'est pour ça aussi je pense qu'il prend son temps. Puis les derniers exemples, Adesanya, Max Holloway en tête, ont montré que quand vous êtes une star et que vous préparez une montée face à un champion ou un top contender, il faut vraiment être présent. Et donc là, John Jones fait tout ce qu'il faut pour arriver en étant à 115 kg, mais pas un 115 kg avec un petit peu de bide et pas être, non, un 115 kg d'un mec qui va être un véritable heavyweight. Et c'est pour ça que moi, ça ne m'inquiète pas, et au contraire, un peu à la manière, tu vois, de TJ Dillashaw, tu vois, ces deux ans-là, quand Dominic Cruz avait dit, moi j'y croyais complètement, quand Dominic Cruz a dit, bah ça va lui faire du bien de prendre deux ans de pause, parce que c'est vrai qu'on sait que TJ Dillashaw, que ce soit en sparring ou en combat, il prend énormément de dommages, et quand il est passé 30 ans, bah forcément, ça pèse un petit peu plus. Bah là, on l'a vu contre Corey Sandhagen, le mec a encaissé, mais comme jamais. Et je pense qu'un gars comme John Jones, qui est champion UFC, enfin, qui défend sa ceinture depuis 2011, je crois, qui est champion, John Jones,
ouais,
quelque
2011,
chose comme ça. Donc quasiment 10 ans de combat pour le titre non-stop, 2 ans de pause, enfin de pause, vous entraînez toujours, mais vous prenez pas les mêmes dommages que vous prenez quand vous êtes continuellement en camp d'entraînement. Bah pour moi, je trouve que c'est une bonne chose pour lui, et quand il arrivera, je pense que ce sera un... Il n'y aura pas de ring rust, et deux, le fait que ce soit un mec qui soit quand même particulièrement rapide, ça va, par rapport au heavyweight, ça va toujours être à son avantage, en fait. Donc, tu vois, il y aura peut-être aller 2 minutes 50, un petit peu de processus pour sentir vraiment ce qui se passe, mais j'ai aucune inquiétude sur le fait que John Jones, quand il fera son premier combat en heavyweight, il sera en forme et il sera prêt.
Ouais, et d'autant plus que il était en light heavyweight rapide, mais c'était pas le plus rapide. C'était vraiment quelqu'un qui était tellement, tellement en avance techniquement qu'il avait même pas forcément besoin d'être ultra rapide pour réussir à set up ses attaques, pour réussir à dominer et à dépasser ses adversaires. Et donc, c'est ça qui est rassurant aussi, c'est que, bah, il monte de light heavyweight, donc il sera normalement effectivement rapide. Ça veut pas dire grand chose, mais on l'a vu faire des pattes d'ours, des pao, etc. Ça ne veut pas dire grand chose, mais on peut quand même en déduire qu'au moins il a encore cette explosivité, il a encore cet athlétisme et qu'il le garde même en poids lourd. Mais en plus de ça, c'est vrai que c'est ça qui est bien avec John Jones, quoi. C'est que c'est un style qui vieillit très bien, parce que c'est un style qui se repose, oui, un petit peu sur de la rapidité, parce que quand même il en faut, mais surtout sur de l'intelligence de combat et de la maîtrise technique qui est juste délirante, quoi. Donc c'est ça qui est bien, c'est que il y a pas vraiment d'horloge qui tourne outre mesure, quoi, parce que ce avec quoi il vient, c'est pas un Anderson Silva, quoi, c'est pas des réflexes, des incroyables capacités athlétiques, c'est de la pure technique, quoi. Donc effectivement, je pense que quand il reviendra, il y aura pas de problème, on aura un John Jones au top, quoi.
Et on a Wallabog qui nous dit, si Cyril affronte John Jones, ce sera la première fois qu'il sera constamment sous pression, étant donné que Jones est constamment en train de presser ses adversaires. Quelle stratégie devra-t-il adopter selon vous ?
Eh ben, c'est compliqué, parce que c'est compliqué en fait des deux côtés, en fait, parce que ben quelle stratégie pour Cyril
Pour Cyril, ouais.
Bah, pour Cyril, je pense que c'est très clair, quoi. C'est dans un combat à distance de kickboxing, je pense quand même que Cyril aura l'avantage. Je pense quand même. Ça peut être très compliqué parce que l'utilisation des kicks par John Jones peut complètement nullifier et peut complètement gêner Cyril. Peut gêner ses changements de garde, ses tentatives d'avancer, ses in and out. Si c'est bien géré par John Jones, ça peut vraiment, vraiment, vraiment embêter Cyril, quoi. Mais Cyril a aussi énormément d'armes. Et pour le coup, je pense que Cyril sera plus rapide que John Jones. Parce que pour le coup, Cyril est extrêmement rapide pour un heavyweight. Et je pense que pour une montée de John Jones, à comparer, je pense que Cyril sera beaucoup plus rapide. Donc il a ses jabs, il a ses kicks. Il a une utilisation et une palette de kicks aussi qui fait que, comment dire, que Cyril peut pallier à peu près à n'importe quel adversaire à distance, je crois. On l'a vu avec Volkov. Donc, à distance, c'est probablement la meilleure chance que Cyril aurait de dominer les échanges. Mais encore, en clinch, c'est très possible qu'il le domine aussi, en fait. Parce que, avec son background de Muay Thai et sa compréhension de l'espace et du placement des membres, etc., je pense qu'en clinch contre la cage, Cyril peut vraiment, vraiment faire du mal aussi à John Jones. Donc, je pense qu'effectivement, le truc, c'est simplement se méfier des amener au sol. Parce que par contre, au sol, je pense qu'il y aura un sacré différentiel. Mais sinon, debout, je pense que Cyril a ses chances, hein, largement.
Bah voilà. Question de Gones 2104. C'est vrai que Cyril n'a pas eu son Gastelum Fight pour Adesanya avant d'être champion. Eh oui. Mais pour ma part, je pense que s'il doit y avoir un Gastelum Fight pour Cyril, ce sera le combat contre Francis. Parce que John Jones, c'est pas du tout le genre de... Enfin, dans le sens où John Jones, quand il vous sonne ou quand vous êtes dans une position un peu... où la fin du combat est proche, il ne laisse jamais passer sa chance, tout simplement. Alors que Francis... John Jones.
John Jones.
Et pour Francis, en fait, je pense que mine de rien, Cyril, pour l'instant, il a pas pris beaucoup de dommages. Le seul combat où il a pris des coups, c'était contre Volkov. Et il est revenu 5 semaines seulement après contre Derrick Lewis. Et vraiment, enfin, c'est absolument monstrueux ce qu'il a accompli. Donc je pense que tu vois, contre Francis, là, il va avoir le temps de se préparer quoi qu'il arrive. Si jamais il doit être touché, parce que je pense qu'il y aura une grosse domination technique de Cyril, mais Francis l'a montré. Je pense notamment, tu vois, contre Miocic, que il reste toujours dangereux. Et donc, tu vois, il y aura ce combat-là dans le sens où je sais pas s'il va être vraiment sonné dans le sens knockdown, mais il y a au moins un moment où il va se prendre, je pense, hein, un coup de la part de Francis. Et le moment où il y aura ça, we'll see.
Ouais.
Voilà. Non, mais bah, sinon, je vois personne, tu vois, je vois vraiment personne dans la catégorie à l'heure actuelle, hein, vraiment, tu vois, capable de... Bah de le sonner vraiment. Dans le sens où si John Jones bat Cyril, je pense pas que ce sera, tu vois, sur un KO. Je pense que ce sera soit sur une soumission, soit sur une décision unanime. Mais il aura pas mis énormément d'infliger beaucoup de dommages à Cyril, dans le sens le mettre knockdown ou le sonner énormément.
Bah, sauf peut-être en ground and pound. À la limite. S'il arrive à mettre Cyril au sol, à l'y maintenir et à faire du travail de sap, mais en version, genre, hardcore, c'est genre version, Crocop Gonzaga numéro 2, tu vois. Bah ça, il peut faire mal quand même. Il peut sévèrement faire mal en ground and pound. Mais sinon, non, effectivement. En fait, le seul que je, il y a Francis, il y a John Jones, mais sinon le seul pour moi qui reste en capacité avec la compétence technique de mettre vraiment, vraiment, vraiment Cyril dans le man, ça reste Curtis Blaydes, quoi. Le problème, c'est que là, il est loin maintenant, Curtis.
C'est ça qui est assez dingue avec Curtis Blaydes. Franchement, ce mec-là, c'est la kryptonique de tout le monde, sauf Francis Ngannou. Et le mec se retrouve là à devoir cravacher, mine de rien. Il affronte Jairzinho Rozenstruik prochainement. Je crois que c'est lors de l'UFC 266. Combat intéressant. Et en cas de victoire, c'est vrai qu'il pourrait se replacer. En tout cas, il y a Rayono qui, 23 qui nous dit, je pense que Cyril a une limite d'encaissement sur les coups à la tête. Tout le monde a une limite d'encaissement sur les coups à la tête. Et jusqu'à preuve du contraire, Cyril n'a pas montré du tout de fragilité de ce côté-là. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre. Il y a pas mal de gens qui disent ça, mais ceux qui parlent d'un menton suspect de la part de Cyril, on ne l'a jamais vu sonner, on ne l'a jamais vu reculer en mode panique à bord lors d'une offensive adverse. Donc, enfin, cet argument, je trouve vraiment très bizarre. Et au contraire, en plus, contre Volkov, où là, il a fallu justement casser la distance et rentrer dedans pour pouvoir s'imposer, il l'a fait. C'est pas du tout le gars qui s'est dit... Parce que ça arrive hein, de temps en temps avec des... J'ai pas d'exemple en tête pour l'instant, mais tu vois des gars qui avaient un game plan à mettre en place pour battre un gars, et parce qu'ils ne voulaient pas se prendre de coups, ils ont perdu le combat.
Bah en soi, Derrick Lewis, hein, parce que le truc, c'est que Derrick Lewis contre Cyril Gane, on entendait ses coachs dans l'autre round dire « Souviens-toi, le game plan, c'est d'avancer. Si tu recules, t'es dans son jeu. » Mais je pense que, à force de prendre des énormes jabs de powerhouse de l'enfer de Cyril... t'as plus envie trop d'avancer, en fait, parce que tu sais ce qui t'attend dès que tu fais un pas en avant. Donc, ouais, déjà cet exemple-là, et puis c'est vrai que... Ouais, voilà, tout simplement.
Alright, merci Big O Rusty, je pense qu'on a fait le tour sur John Jones vs Cyril. En tout cas, ça vous passionne en commentaire. Bah voilà, c'est fini pour le petit live Twitch du jour. On se retrouve très très vite parce qu'avec Rust, là on est en train de voir, ça va être un format podcast pour le prochain, mais on va peut-être faire un truc petit palan des grands à partir de la rentrée. Ne vous inquiétez pas. Parce que la sueur passe en mode 3.0 à partir de la rentrée, donc il y avait déjà les comptes du père Rusty. Là on aura peut-être un truc, les pépites du père Rusty ou quelque chose comme ça. Parce ce serait pas mal.
Ah ouais, grave, trop chaud.
Eh bah donc voilà, donc en plus Rust est chaud. Bah merci, bah voilà tout le monde qui nous remercie, mais merci à vous en tout cas pour votre fidélité.
Grave.
Vous le savez, big shout out à my sweet pea, my sweet protein. Moins 38% sur tout my protein avec le code LASSUEUR. Et puis big shout out à Venom, sponsor de l'UFC. Wouh! sponsor de la sueur, vous le savez. On se retrouve premier live Twitch pour moi. Bravo la sueur, bah merci. Bah, voilà. Bah, voilà. En plus ça marche bien. Vous avez vu, hein, Minoua, maintenant on est calé. Il y a plus ces espèces de trucs de wow, problème de connexion quoi. Ça fonctionne bien. On est sur YouTube, donc vous pouvez nous regarder sur YouTube également pour les replays de ces lives. On est également sur toutes les plateformes de podcast, bien évidemment. iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, et j'en passe. Et pour les King Energy, parce que vous demandez souvent, pour King Energy, c'est sur une channel différente qui s'appelle King Energy. Vous tapez ça sur votre application favorite de podcast, et on y sera. Bon bah voilà, à très vite pour de nouvelles aventures. Bonne journée, on nous souhaite la bonne journée, on vous la souhaite également. Allez, see ya, et faut que je lance l'outro qui est là. À plus.
A plus.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.